Vous écoutez, on lit pour vous.
Protection de la jeunesse, l'espoir passe par l'autonomie pour les Autochtones. Un texte de Gabriel Audet-Michaud, paru le 21 octobre 2023 dans Le Franco, en Alberta. Environ 70% des jeunes de moins de 18 ans qui reçoivent des services d'intervention en Alberta sont d'origine autochtone. Un chiffre alarmant au regard du faible pourcentage, à peine 10%, que représente ce groupe dans la population générale de la province. Pour faire face à cette surreprésentation, certaines nations ont amorcé une véritable révolution. Reprendre en main les services de protection à l'enfance dans l'espoir de préserver la stabilité culturelle et d'éviter le déracinement des jeunes. Une avenue prometteuse qui semble porteuse de changements. En Alberta, comme dans l'ensemble du pays, la tendance est lourde. Les jeunes autochtones sont plus à risque que n'importe quel autre groupe d'être placés sous la responsabilité du système et de se retrouver en famille d'accueil. Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada apportait des conclusions sans équivoque sur ce phénomène en 2015 en indiquant que les systèmes de protection de la jeunesse actuelle perpétuent l'assimilation des peuples autochtones qui a été amorcée à l'époque des pensionnats et poursuivie avec la rafle des années 1960. Il y a toutes sortes d'effets discriminatoires et négatifs associés au placement des enfants autochtones dans des familles non autochtones. On parle de perte d'identité culturelle. Ça crée des traumatismes et des conséquences à court, moyen et long terme. Ces enfants seront plus à risque d'expérimenter des démêlés avec la justice, d'avoir des taux élevés de décrochage et de chômage, explique Lisa Ellington, une professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval au Québec. Selon elle, bien que des dispositions récentes ait été ajouté à certaines lois provinciales sur la protection de la jeunesse pour tenir compte de la continuité culturelle lors de la prise en charge des enfants autochtones, les effets sur le terrain demeurent mitigés. On remarque que les changements législatifs n'ont aucune incidence sur la surreprésentation. Dans plusieurs provinces, il y a encore une augmentation dans les prises en charge, dans les placements des Autochtones comparativement aux non-Autochtones, analyse la professeure. Afin de renverser la tendance, la seule avenue envisageable reviendrait à miser sur une plus grande implication des communautés autochtones dans la gestion des services à l'enfance et à la famille, mentionne la spécialiste, ce qu'elle décrit comme la gouvernance autochtone. Tous les rapports et les enquêtes recommande l'autonomie. Plusieurs communautés exercent déjà leurs compétences en la matière. L'autodétermination, c'est un droit qui est reconnu par nos gouvernements. Souvent, on a l'impression que c'est un privilège, mais c'est un droit, affirme la chercheuse. L'autodétermination à la sauce albertaine. Déjà, quelques Premières Nations de l'Alberta ont signé des accords avec les gouvernements fédéral et provincial pour reprendre en main leur système de protection de l'enfance. En février 2023, la bande Cree Louis Boule a été la première à signer une telle entente. Deux mois plus tard, les communautés de Lone River, Peerless Truth et Lubicon Lake ont établi un accord similaire. Selon Lisa Ellington, cette forme de gouvernance autochtone permet aux communautés de mettre en place des pratiques d'intervention conformes à leurs valeurs, leur culture et leur mode de régulation sociale. La stabilité de l'enfant et sa sécurité pourront, entre autres, être mises sur un pied d'égalité avec le maintien des liens avec sa culture, sa langue, son territoire et sa famille, de sorte à réduire les placements à l'extérieur des communautés. Quand on change les définitions au niveau juridique sur ce que représentent les intérêts de l'enfant, ça change les pistes de solutions envisagées, témoigne la professeure. Dans le sud de la province, des initiatives caritatives, pilotées par des autochtones, prennent de l'ampleur pour permettre aux communautés de reprendre la gestion des services à l'enfance et à la famille. Le Nokowa Family and Youth Center, ouvert depuis 2020 à Fort McLeod, en est un exemple. Ce centre permet d'accueillir des enfants qui sont sous tutelle permanente ou dont les parents sont décédés. Plutôt que d'être envoyés dans une famille autochtone, les jeunes sont hébergés et nourris au centre, explique Karen English, la présidente de la fondation Sina House, qui gère cette initiative. Les frais d'hébergement varient selon les services offerts, précise-t-elle. Notre objectif est d'améliorer le sort des familles autochtones et des jeunes qui ont été pris en charge par le système. On les aide à renouer avec leur identité. C'est pourquoi on fait appel à des aînés pour encadrer ce processus. Notre centre a été créé pour et par les Autochtones, illustre cette membre de la Confédération des Pieds Noirs. Le centre met aussi à la disposition des résidents des espaces dédiés à l'exercice, une cuisine et un salon commun, ainsi qu'une salle de cérémonie. Parallèlement, la maison d'hébergement supervise un programme de réunification familiale pour permettre aux parents de redresser leur vie et de récupérer la garde de leurs enfants. Ils peuvent louer des appartements situés à quelques mètres du centre. Par exemple, si des enfants ont été retirés à leur mère, au lieu d'être placés en famille d'accueil, nous gardons la famille ensemble et nous supervisons la mère dans son engagement envers les services à l'enfance et à la famille. L'objectif, en soutenant la mère et ses enfants, c'est qu'ils puissent sortir du système, souligne la présidente de la Fondation. Karen English espère voir des communautés autochtones d'un peu partout dans la province s'inspirer du modèle mis en place par le centre familial de Fort McLeod. Surtout, elle aimerait que le travail d'autonomisation des nations autochtones se fasse de manière collaborative. Je crois qu'on doit briser les silos. L'intention avec la colonisation et les pensionnats, c'était de tuer l'Indien dans l'enfant, de lui ôter sa langue, sa culture, de l'éloigner de sa famille. Mais nous risquons encore de disparaître et de perdre nos langues et notre mode de vie. La seule manière d'y remédier, c'est de gérer nos services et de se servir de nos connaissances communes, témoigne cette travailleuse sociale qui a cumulé une trentaine d'années d'expérience sur le terrain. La rafle des années 60 désigne l'enlèvement à grande échelle, ou rafle, des enfants autochtones à leur domicile, à leur communauté et à leur famille d'origine dans les années 1960, ainsi que leur adoption ultérieure par des familles de classe moyenne, la plupart non autochtones, aux États-Unis et au Canada. Des constats prometteurs. Lisa Ellington mène actuellement une recherche-action sur la mise en œuvre de la loi de la protection sociale atikamekw d'Optiksiwan au Québec. Afin de documenter les résultats de cette nouvelle approche de gouvernance découlant de la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits, qui reconnaît la compétence des Premières Nations, des Inuits et des Métis à élaborer leur propre loi en matière de services à l'enfance et à la famille. Bien que les résultats en soient encore à un stade embryonnaire, la chercheuse est déjà en mesure d'émettre certains constats. Elle espère qu'ils seront exportables à d'autres communautés à travers le pays. Par exemple, elle fait remarquer que la Première Nation québécoise mise davantage sur les services préventifs que sur la prise en charge formelle sous la loi de la protection sociale. Cette avenue permet, entre autres, d'offrir des services prénataux aux femmes. En résultat, les taux de placement des jeunes enfants et des bambins semblent avoir diminué. Pour les 0 à 4 ans, les placements ont diminué de près de 10 %, évoque-t-elle. Par ailleurs, lorsque le recours à la loi de la protection sociale doit absolument être envisagé, les familles n'ont plus besoin de passer par les tribunaux, ce qui change radicalement le modèle d'intervention. Les familles se réunissent et prennent part à un conseil pour trouver des solutions ensemble. Si le placement est la décision finale, il y a une responsabilité collective pour trouver le meilleur milieu pour accueillir l'enfant. Ce n'est pas un intervenant extérieur qui prend cette décision tout seul, décrit Lisa. Les placements à l'extérieur de la communauté sont donc peu fréquents, puisque l'entourage de l'enfant est fortement mobilisé. Bien entendu, un comité d'arbitrage composé de sages a également été établi comme instance de dernier recours pour venir en aide aux jeunes. Or, depuis la mise en œuvre de la loi Atikamekw, aucun cas n'a été entendu devant le dit comité. Tout s'est déroulé sur une base volontaire, se réjouit Lisa. Elle rappelle, enfin, que la gouvernance seule ne peut résoudre tous les défis systémiques qui perdurent depuis des décennies au pays, mais si d'autres communautés autochtones s'inspirent du travail des Atikamekw d'Opichiwan, la surreprésentation des enfants dans les services d'intervention a des chances, elle, de diminuer. C'était « Protection de la jeunesse, l'espoir passe par l'autonomie pour les Autochtones », un texte de Gabriel Audet-Michaud, paru le 21 octobre 2023 dans le Franco, en Alberta.
L'homme coureur, un texte inédit de Dave Jennis, paru en juin 2024 dans le carnet « Je lis autochtone ». Artiste de la nation Wallastukiik Wassipekuk, Dave Jennis pratique avec passion depuis 20 ans les rôles de comédien, metteur en scène, dramaturge et scénariste. Depuis 2017, il est aussi directeur artistique des productions Andinoc, compagnie autochtone francophone multidisciplinaire. L'homme coureur. Une légère fumée se dégageait des herbes sacrées. L'odeur de pin, de sauge et de cèdre envahissait la petite cabane qui servait de refuge au sommet de cette montagne où nous aimions nous retrouver après une longue sortie de course. Je pouvais sentir toute la puissance de ce nouveau rituel qui m'aidait à commencer une autre journée sans toi. Les rayons du soleil transperçaient le léger rideau blanc jauni par les années. Du feu émanait une chaleur réconfortante qui réchauffait le vieux plancher de bois où j'étais assis en pleine réflexion. Cette petite cabane donnait une impression d'énergie, laissée derrière par un passé brisé. J'y habitais depuis peu, me contentant d'un minimum de ressources. Le strict nécessaire à une survie rustique était le plus important pour moi. Je m'étais donné 2 mois pour retrouver mes repères, défricher les sentiers qui m'entouraient et m'empêchaient d'avancer depuis trop longtemps. Tout était morose, ma vie, la ville, les gens. Rien de nourrissant dans cette grisaille à étouffer les quelques moments d'utopie qui survolaient mon imaginaire. Je n'aimais pas ce sentiment de perte de contrôle, cette impression de m'effacer jusqu'à ce que personne ne remarque plus que j'étais devenu invisible. Il n'était pas question ici d'attirer la mort. Au contraire, mourir me faisait terriblement peur. J'attendais depuis longtemps que tu reviennes. J'essayais encore de laisser passer le temps. Tout de toi me manquait, tes lèvres, tes mains, ton rire, tes mots doux. Avec une inquiétude incontrôlable, j'avais bien pris soin de compter les heures et les jours passés sans toi. Parfois je pleurais, parfois je riais, parfois la rage me brûlait l'estomac. Il y avait une chose que je ne pouvais nier. Cependant, j'avais besoin de toi. Tu étais mon ombre, ma guide, celle qui croyait en moi, celle qui ne manquait jamais de me dire « je t'aime » et qui repoussait mes limites de coureur aguerri. Nous étions là, l'un devant l'autre, à espérer. Nous étions là, l'un devant l'autre, à rêver. J'aimerais te dire, tendre, lumineuse, courageuse, aimante, passionnante, drôle, touchante, douce. J'aimerais te dire, cosse-le-molle, je t'aime, sans compromis, sans artifice, sans retenue. Cette nuit-là, je m'étais réveillé tremblotant avant de me lever en vitesse pour redonner vie au feu qui était sur le point de s'éteindre. Ne pouvant plus fermer l'œil, j'avais décidé de fouiller dans le vieux placard d'entrée pour retrouver les lettres d'amour que je t'avais écrites et que j'avais laissées à l'abandon durant trop d'années. Je lisais sans m'arrêter, les yeux rougis par la fatigue. Je prenais chacun des mots et les plaçais sur mon cœur pour être bien sûr de les faire passer à travers ma peau. Le besoin de te voir et de te toucher était viscéral. Je m'étais rendu à l'évidence, tu ne reviendrais pas. Les images défilaient dans ma mémoire sans entracte. Toutes ces courses, les milliers de kilomètres à traverser le territoire de mon enfance, inspirées par ta fougue et ta persévérance, ces courses, elles, étaient le meilleur film que j'avais dévoré depuis longtemps. Deux jours après mon arrivée, je m'étais donné la permission de courir seul. Après une courte réflexion, revenir ici avait sans doute été la meilleure décision que j'avais prise après plusieurs échecs. Je devais maintenant me conditionner à faire ce que j'aimais le plus au monde, courir en survolant les sentiers, en évitant les racines et en analysant chaque détail du parcours, comme le fait un joueur d'échecs, pour ne commettre aucune erreur qui pourrait lui être fatale. Rapidement, j'ai pris mon sac à dos. Le constat était frappant. Une fois à l'extérieur, le bruit de mes pas dans cette première neige qui recouvrait la montagne me rapportait constamment l'importance du froid glacial qui s'était installé. J'ai eu besoin de quelques minutes pour me faire à l'idée que le vent ne serait pas mon meilleur compagnon pour cette sortie. Plus je courais, plus je sentais mon corps qui se réchauffait. Après un temps, je me suis arrêté au bout d'un sentier, là où une petite falaise surplombait le fleuve. J'ai reconnu les quatre grandes épinettes enracinées en une forme circulaire, ce qui laissait une immense place au recueillement. J'avais toujours eu un fort pressentiment à propos de cet endroit si particulier. Je le ressentais encore plus aujourd'hui. Il était évident, d'après mes nombreuses recherches, que cet endroit avait servi de lieu cérémonial aux ancêtres Wallastukiik. Au pied de l'une des épinettes, une pierre laissée là me rappelait ce nom que tu m'avais donné, l'homme coureur. À tes yeux, j'étais l'homme coureur. J'étais celui qui traversait le territoire à la course sans jamais se perdre. J'étais l'homme du passé et du présent. Tu avais décidé de me nommer ainsi parce que je pouvais parler aux ours. Je me répétais ces vieilles paroles ancestrales que j'avais pris soin d'écrire dans un grand cahier bien conservé. « Nutsi pilouette, nilsi, kokakok etuli, nokalasik, pitoui, skit kumik, eyul titit, pema sul tisik, nakuwe yosiksok. » Je suis le guérisseur des âmes abandonnées entre le monde des vivants et des animaux. Tout semblait être comme un rêve éveillé, une sorte de déjà-vu. L'horizon n'avait aucune fin. J'ai décidé de sortir de mon sac à dos le petit panier d'écorce qu'une aînée de ma nation m'avait offert. Je savais que je devais faire ce geste symbolique pour moi, mais aussi pour toi. Tu m'avais toujours dit de porter attention aux ours et à leur comportement. J'ai décidé de prendre une de mes pierres sacrées et les os d'un vieil ours retrouvé mort il y a 10 ans et de les placer au sol afin qu'ils pointent les quatre directions. J'ai ensuite placé au milieu, dans un geste honorifique, ton chandail préféré. Le temps était maintenant venu de te laisser partir. Au même moment, de lourdes pattes ont frappé le sol. Il me fallait rester calme et faire confiance à mon instinct. Devant moi se dressait un ours. J'ai laissé la bête m'observer et j'ai continué à faire comme si elle n'existait pas. Peut-être que mon imagination s'amusait à mes dépens, laissant planer cette vision animale. Sans trop savoir pourquoi, dans un acte impulsif, j'ai commencé à bouger comme la bête. Je me suis mis à faire cette danse en son honneur. Mes mouvements étaient d'une pureté et d'une fluidité que je ne pouvais expliquer. Jamais mon corps n'avait été emporté par autant de grâce. Je revivais les danses ancestrales. Une petite voix intérieure me disait que cette âme, cet animal, c'était toi. Revenu dans la bête, j'en étais persuadé. Tu étais là, avec moi, pour me dire de continuer à vivre et à avancer, dans ce monde sans réponse. Je devais survivre au temps et me rappeler qui j'étais. Je suis l'homme coureur. C'est la seule chose que je sais faire. C'est le don que j'ai reçu de mes ancêtres. Je cours pour oublier le temps. Je cours pour me nourrir. Je cours tout simplement. Sans la course, je ne suis qu'un humain sans âme. L'homme coureur n'est pas en fuite. Il court pour survivre et remplir son esprit. C'était « L'homme coureur », un texte inédit de Dave Jennis, paru en juin 2024 dans le carnet « Je lis autochtone ».
Au musée Monova, la rétrospective du chef Dan George résonne avec les luttes autochtones actuelles. Un texte de Suzanne Liard paru le 2 avril 2024 dans La Source, à Vancouver. On se rappelle ces années de revendications et la vie tumultueuse du chef autochtone Dan George, de la nation Tsleil-Waututh, en Colombie-Britannique. Le musée Monova de North Vancouver consacre une exposition à l'héritage du célèbre poète, acteur et activiste autochtone, le chef Dan George. Au-delà de ses succès hollywoodiens, l'exposition met en lumière ses engagements pour les droits des peuples autochtones et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Deux portraits identiques d'un homme à la longue chevelure, arborant un léger sourire, rappellent les célèbres sérigraphies pop art de l'artiste Andy Warhol. Il s'agit du chef Dan George, poète, acteur et activiste pour les droits des peuples autochtones canadiens, et l'œuvre est signée Levi Nelson, un artiste peintre membre de la nation Lillooet en Colombie-Britannique. Suspendue sur les murs du musée de North Vancouver, elle fait partie de l'exposition Acteur du changement, l'héritage du chef Dan George. En mêlant des éléments biographiques du leader autochtone avec d'autres créations artistiques, la rétrospective invite le visiteur à considérer l'héritage d'une telle figure et à questionner ses propres engagements. Activiste et star de cinéma. Pour certains, le visage du chef Dan George rappelle le personnage d'Old Lodge Skins dans le western Little Big Man d'Arthur Penn, sorti en 1970. Mais avant de commencer une carrière hollywoodienne et de donner la réplique à Clint Eastwood, sa vie a été ponctuée d'engagement. À 16 ans, il quitte l'école résidentielle Saint-Paul où il n'a pas le droit de parler sa langue maternelle et où son nom, Gesvanutz Laholt, est anglicisé en Dan George. Pendant 20 ans, il exerce le métier de débardeur au port avant de se blesser. En 1961, il succède à son père et prend les rênes de la nation Tsleil-Waututh. Il a été élu parce qu'il a été un guide et donnait des conseils aux jeunes générations. C'était un leader depuis le début, souligne Andrea Terron, curatrice de l'exposition. C'est au moyen de l'art qu'il déploie son engagement pour les droits des peuples autochtones. En 1967, lors du centenaire de la Confédération, il récite son poème « La complainte de la Confédération » devant 32 000 personnes rassemblées à Vancouver. Les mains croisées derrière le micro, il déclame « Sa tristesse pour tous les Autochtones. Ô Canada, devrais-je te remercier pour les réserves qui me restent de mes belles forêts, pour la perte de ma fierté et de mon autorité, même au sein de mon propre peuple? » C'est le poème le plus puissant du monde. Le chef Dan George a montré comment on pouvait faire sa place et avoir une tribune, analyse Andrea Terron, qui a imprimé des copies du poème entier pour l'exposition. Quelques années après cet événement, il publie deux recueils de poèmes. Mais ce sont ses débuts au cinéma, qu'il commence à 60 ans, qui donnent une visibilité supérieure à ses combats. Les musées ne doivent pas rester neutres. Faire résonner la vie du chef Dan George avec les luttes actuelles, c'est l'objectif de la nouvelle curatrice arrivée il y a 6 mois. Au milieu de la salle d'exposition, elle a installé une immense banderole utilisée par Will George dans la lutte contre le pipeline Trans Mountain en 2018. Et sur le pan d'un mur, une frise chronologique regroupe des dates clés des luttes autochtones. De la loi sur les Indiens, en passant par le procès Calder contre la province de Colombie-Britannique en 1973, jusqu'aux excuses officielles de l'Église catholique aux victimes des écoles résidentielles en 2022. Nous sommes sur les terres des peuples autochtones, alors c'est très important de leur donner cet espace, appuie la curatrice. Beaucoup de personnes n'osent pas parler des droits des Autochtones, mais les musées ne doivent pas rester neutres et sont responsables de créer des liens entre les communautés. Alors, ayons cette conversation. Pour cela, elle a installé dans un coin de la salle un petit bureau au-dessus duquel plusieurs pancartes sont affichées. Les visiteurs sont conviés à s'y asseoir et à écrire leur propre slogan, comme une invitation à passer à l'action. C'était au Musée Monova, la rétrospective du chef Dan George résonne avec les luttes autochtones actuelles, un texte de Suzanne Linhard paru le 2 avril 2024 dans La Source à Vancouver.